BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans leur H. On va parler de gouvernance, de comité exécutif et puis aussi de santé des PME avec mon invité déjà en studio, Patrick Bertrand, que vous connaissez bien. Bonjour Patrick Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes désormais président du comité de gouvernance des entreprises du MEDEF. Et puis c'est vous, tiens, puisque hier il était mon invité qui gérait le family office de Jean-Michel Aulas.
Absolument.
Voilà. Comme ça, c'est dit. Je recevrai aussi le patron de la néobanque N26, Jérémy Rossel. N26, c'est pour la France qui fête ses 5 ans et ses 5 millions de clients. Et puis tiens, qui vient de se retirer du marché britannique et nous dira pourquoi. Et puis, je recevrai Agnès Verdier-Molinier, la directrice générale de l'IFRAP. Vous savez, on finit par l'oublier un petit peu. Ce sont les élections municipales les deux week-ends prochains. Eh bien, elle a, avec ses équipes, mouliné le compte de à peu près 300 villes de France pour voir quelles étaient les mieux gérées. Et vous verrez, la réponse, ça sera à partir de 12h30. Mais pour l'instant, passe à l'actualité. Aurélie Planex. Bonjour Aurélie.
Bonjour Edwige.
De loin.
De très loin. Mais quand même, bonjour à tous. Alors, on commence avec les marchés qui tentent de se redresser. Aujourd'hui, le CAC 40 progresse d'1,6%, 4710 points. Hier, le CAC 40 avait terminé en repli d'1,5% après avoir passé une bonne partie de la journée dans le vert. Mais Wall Street a bien rebondi. Alors, parmi les valeurs qui sont à la hausse aujourd'hui, on distingue quand même le titre Biomérieux qui s'adjuge quasiment à 5%. Le groupe va mettre à disposition à la fin du mois son premier test de dépistage du coronavirus. En revanche, Air France KLM est dans le rouge. Le titre recule de 2,3%. Air France KLM qui suspend tous ses vols vers l'Italie à compter de samedi et jusqu'au 3 avril. Des marchés qui sont également portés par la baisse surprise des taux de la Banque d'Angleterre ce matin. Elle a décidé de ramener son principal taux directeur de 0,75 à 0,25%. C'est la première fois depuis 2008 que la BOE agit sur les taux hors réunion monétaire. Alors justement, demain, on attend la réunion de la BCE et Christine Lagarde a indiqué ce matin que la Banque Centrale étudie actuellement tous les outils à sa disposition, particulièrement ceux permettant de fournir des financements très bon marché. De son côté, la Commission européenne va créer un fonds de 25 milliards d'euros et être un petit peu plus souple sur les règles budgétaires le temps de l'épidémie. Annonce faite hier soir à l'issue d'une visioconférence entre les chefs d'État et les gouvernements des 27. Dans un premier temps, la Commission débloquera 7,5 milliards d'euros que les États pourront dépenser pour soutenir leur économie. Pour autant, pas question de procéder dans l'immédiat à un vaste plan de relance, selon Margrethe Vestager, la présidente de la Commission européenne, était ce matin votre invitée dans Good Morning Business. On l'écoute.
Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que des fonds soient disponibles pour les secteurs les plus affectés, le secteur de la santé en l'occurrence, faire en sorte qu'il y ait des fonds qui permettent de développer les capacités et nous voulons également contenir, réduire les dommages économiques. Cela représente beaucoup de ressources, mais il faut un petit peu plus de temps pour voir la sévérité des dommages et voir comment l'économie peut rebondir, ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas à la fin de la crise du virus.
Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne qui était ce matin l'invitée d'Edwige Chevrillon dans Good Morning Business. En attendant, en Italie, bien le gouvernement débloque, lui, en urgence 25 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Il ne fait pas de nouvelle estimation du déficit budgétaire pour cette année. Puis en Chine, l'activité économique reprend progressivement. Certaines usines de Wuhan ont été autorisées ce matin à redémarrer. En revanche, pas d'amélioration sur le front de la guerre des prix du pétrole après l'Arabie Saoudite. Ce sont maintenant les Émirats qui se disent prêts à augmenter leur production, 1 million de barils supplémentaires par jour. De son côté, Vladimir Poutine se dit certain que l'économie russe sortira renforcée de cette crise pétrolière. Le baril de Brent est en repli de quasiment 4%, $36.28 à l'instant. Le WTI recule de 2% à $33.44. Un dernier mot dans le reste de l'actualité pour vous dire que Joe Biden prend de l'avance dans la primaire démocrate aux États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama remporte le Michigan, le Missouri, le Mississippi et l'Idaho. Joe Biden tend la main à son adversaire Bernie Sanders pour battre ensemble Donald Trump. Je vous rappelle le CAC 40 qui donc progresse à la mi-journée. Plus 2% quasiment pour l'indice parisien, 4728 points Edwige.
Merci Aurélie, bien sûr on vous retrouve à 12h30 pour un nouveau journal. La question du jour, est-ce que les PME se sentent rassurées par le plan de soutien du gouvernement? On en parle tout de suite avec Patrick Bertrand.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Patrick Bertrand, merci d'être avec
merci
nous ici dans le RH. Vous êtes président du comité de gouvernance des entreprises du MEDEF et vous aviez une réunion ce matin sur la question notamment des quotas, de la parité, mais aussi des fonds activistes. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Mais c'est vrai que la question du jour aujourd'hui, c'est plutôt est-ce que les PME, comment vont-elles et est-ce qu'elles se sentent rassurées par les mesures de soutien qui ont été annoncées ? Vous dirigez, je le disais, le Family Office de Jean-Michel Aulas. Vous investissez dans d'autres entreprises, des PME. Mmh. Inquiétude, pas inquiétude ?
Véritable inquiétude. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter les artisans, tout l'environnement artisanal, hôtellerie, restauration. Il y a une vraie inquiétude. Alors, les annonces qui ont été faites vont dans le bon sens, parce qu'en réalité, le sujet, c'est est-ce qu'on est en face d'une problématique structurelle ou temporaire ? Est-ce que la problématique des entreprises, c'est d'avoir des problématiques de trésorerie, parce qu'elles ont des coûts fixes et qu'elles peuvent pas facturer leurs clients parce qu'elles peuvent pas les livrer ? Et donc, tout ce qui a été mis en place, accompagné d'ailleurs pour les entreprises de technologie suite aux annonces et aux discussions avec Cédrico.
Ici même, hein, absolument.
Le premier sujet, c'est retarder les échéances de remboursement bancaire. Et la BPI peut jouer un rôle tout à fait remarquable. Le deuxième sujet, c'est accélérer le recouvrement des créances qu'on peut avoir sur l'État, de toute nature, notamment le crédit impôt recherche. Et puis, la troisième thématique, eh bien, c'est d'essayer d'accompagner le dispositif, notamment sur des sujets réglementaires. Et vous savez, là, on quitte la logique uniquement PME. Vous savez à quel point le coronavirus pose des problèmes de démocratie. On en a parlé pour les élections, mais aussi de démocratie des entreprises. Et il y a une thématique aujourd'hui. Les assemblées générales se profilent pour l'approbation des comptes des exercices 2019 et il convient de trouver les bons axes. Donc le cabinet Le Maire est mobilisé là-dessus. L'AMF est intervenue pour trouver le bon chemin et au demeurant...
C'est un peu tôt, non, quand même, pour prendre une décision sur les assemblées générales. Ça commence quoi, fin avril, début mai?
Oui, mais vous avez l'obligation de convoquer et de publier les convocations.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, c'est urgent aujourd'hui de s'en préoccuper. Et ça monte à quel point d'ailleurs...
Il y a combien de temps
C'est un mois avant, un minimum un mois avant, voire 45 jours dans certains cas. Et ça montre à quel point le numérique peut être une solution, une fois de plus, puisque on peut tenir des assemblées à la fois télétransmettre, deuxième élément, voter par correspondance ou voter en vote électronique. Donc il y a aujourd'hui des dispositifs qui le permettent. D'ailleurs, on verra à la sortie de coronavirus qu'il y a une expansion et une explosion des utilisations de streaming, de vidéoconférences.
Un peu comme les matchs de foot, finalement, une assemblée générale, c'est sauf le public, sont les actionnaires, c'est parfois assez rocambolesque, parfois c'est effectivement plus calme, mais c'est quand même un match de foot, quoi.
C'est vrai, mais avec quand même la différence, c'est que jouer à huis clos un match de foot, c'est un peu problématique parce que c'est un spectacle et que la qualité du spectacle interagit avec la
Bien
qualité
sûr.
Du public et le nombre du public, ce qui peut être un tout petit peu différent dans le sujet des assemblées générales.
Est-ce que, vous avez des précisions par rapport à la Juventus Turin ? D'ailleurs, je posais la question à Jean-Michel Aulas, il disait, je crois qu'on peut jouer quand même à huis clos, alors on regardait le décret du Premier ministre italien, ça n'a pas l'air évident. Est-ce qu'aujourd'hui... 24 ans après, vous avez des news.
Pas d'informations supplémentaires, mais c'est un chemin de crête qui est très difficile, parce qu'on est dans un contexte que vous connaissez très bien. C'est si le gouvernement ne fait rien, il va être considéré comme incapable et ne respectant pas le principe de précaution. Et puis s'il en fait trop, vous affolez les populations. Donc il faut trouver le chemin de crête. Et je crois que chaque situation amènera sa décision ajustée et adaptée.
Oui, et en même temps, on voyait bien que hier... quart de finale, la psyche Tottenham a été jouée en public. Donc on peut se poser la question pourquoi en France, en Italie, c'est différent d'en Allemagne ou dans Grande-Bretagne.
C'est vrai, mais c'est la responsabilité de chacun des dirigeants.
Alors, revenons quand même aux entreprises. Donc là, est-ce que ce matin, Margrethe Vestager, donc la vice-présidente de la Commission européenne, elle disait pour l'instant pas plan relance. En revanche, il faut vraiment regarder tous les secteurs où effectivement il y a des difficultés, surtout pour les PME, donc en appui des plans nationaux. Les secteurs clés en dehors de l'hôtellerie, l'événementiel, enfin ce dont on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, je ne sais pas, qui vous sont remontés à vous, Patrick Bertrand, et au MEDEF ?
Alors, l'hôtellerie, restauration, etc., c'est quand même tout ce qui concerne le tourisme, et on sait quelle est l'importance, le poids
Bien sûr.
Du tourisme dans le PIB français.
Surtout mais à Lyon, avec Gilles Evans et Olivier Gillon.
Vous n'avez pas tort, mais dans les secteurs, on voit beaucoup de choses dans le monde de l'industrie. Pour une raison évidente, c'est que tout le monde sait que la Chine, d'une façon ou d'une autre est intervenant dans 60 à 70% de chaînes de valeur qui concourent au commerce international. Donc après, il y a une réaction en chaîne. Et c'est la raison pour laquelle on verra plus tard ce que fait la Commission européenne, mais que l'on se place dans une logique d'accompagnement plus que de relance, à ce stade, ça me paraît être la décision est efficace et judicieuse.
Oui. Alors, maintenant, Patrick Bertrand, la gouvernance d'entreprise, parce que ça, c'est quelque chose que vous portez maintenant au sein du MEDEF, et il y a quand même beaucoup d'interrogations toujours sur la gouvernance. Alors, l'interrogation, elle vient de nous, observateurs, mais elle vient aussi de chefs d'entreprise, de patrons de PME, de TPE, qui disent, finalement, c'est pas très utile, au contraire, ce sont plutôt des contraintes. Est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge un peu ou pas encore? Alors, soyez honnête.
Totalement honnête, mais vous connaissez, j'ai pas appris la langue de bois. Je parle d'autres langues étrangères, mais pas celle-là. Le sujet de fond, c'est effectivement de faire en sorte, c'est d'ailleurs l'objet et la raison pour laquelle le MEDEF a créé le comité de gouvernance des entreprises, c'est de faire en sorte que la gouvernance soit pas perçue comme un corpus de règles et de contraintes, mais comme un élément et un acte de performance. Et aujourd'hui, ça l'est encore plus pour une raison évidente, c'est que le risque réputationnel est plus important que le risque juridique. Et donc, quand on regarde sur les trois éléments des parties prenantes classiques, vous êtes une entreprise agroalimentaire, vos clients ne veulent plus acheter vos produits parce que ils ne sont pas packagés correctement et pas respectueux de l'environnement. Vous êtes une entreprise qui ne respecte pas la parité ou qui ne se préoccupe pas du bien-être de ses collaborateurs, collaboratrices. Vous rentrez dans la guerre des talents, Dieu sait si elle est réelle aujourd'hui, vous n'arrivez pas à recruter. Et puis enfin, le chapeau de tout ça, c'est que si vous n'intégrez pas ces démarches-là, vous n'allez pas trouver de financement pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement, les actionnaires ont exprimé assez clairement, on verra si ça n'est que du washing ou si c'est une réalité, mais veulent investir dans les entreprises qui ont pris en compte ces éléments-là.
Oui,
mais pas pour des raisons purement philosophiques.
Ça va bouger.
Mais ça va bouger parce qu'il va y avoir une pression.
Oui, il y a une pression, vous avez raison déjà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi, c'est ça ce que vous dites, mais de l'autre côté du côté des chefs d'entreprise, vos copains, j'ai envie de dire, est-ce que vos relations, vos collègues, est-ce que vous arrivez à les convaincre de ça?
Alors, on est sorti de ce domaine il y a 8 ou 10 ans. Il y a une vraie compréhension parce que précisément, les dirigeants d'entreprise ont vécu cette pression que j'évoquais tout à l'heure. Pression du consommateur, pression des collaborateurs, difficulté de recrutement. Donc, c'est assez intéressant parce que la période actuelle n'est pas la période il y a 10 ou 15 ans où il fallait légiférer absolument. Je le répète, aujourd'hui, la pression sur la réputation est au moins aussi importante. Et surtout, c'est pas uniquement une démarche entre guillemets philanthropique, c'est que les entreprises perçoivent bien qu'elles font moins de chiffre d'affaires, par exemple, elles arrivent moins bien à recruter, comme je l'évoquais. Donc, au bout du bout, ça impacte le résultat financier. Donc, on voit bien qu'il y a une chaîne, aujourd'hui, qui s'établit. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les critères extra-financiers d'une entreprise ont un impact direct sur le critère financier. D'accord. Donc, ça, c'est le meilleur moteur. Oui. Pardonnez-moi d'être un peu rat-terre et d'exprimer ce qu'une entreprise doit faire, c'est au bout du compte être pérenne et donc faire des résultats. Pour faire des résultats aujourd'hui, on peut plus se contenter d'être uniquement productiviste.
Voilà, et ça c'est le message que vous faites passer.
Absolument.
Alors,
et ça bouge, vraiment ça bouge, il y a une vraie évolution.
Les quotas, diversité, femmes, mais pas seulement. Est-ce qu'ils sont obligatoires ou pas obligatoires? Lorsqu'on lit le code AFEP MEDEF, qui a été un peu revisité, justement,
oui.
J'en parlais avec Patrick Martin,
le numéro
2 du MEDEF, il y a un mois. Vous, ce qui est intéressant, c'est justement un peu au niveau des PME. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable? Quand on écoute les patrons du CAC 40, ils vous disent que ce n'est pas possible. Enfin, une grande partie vous dit pas tout de suite, parce que, notamment, il n'y a pas assez de femmes qu'on fait émerger, etc. Est-ce que dans les quotas, dans les COMEX, comité de direction, est-ce que c'est ça que vous souhaitez, Patrick Bertrand?
Alors, on est tous alignés sur ce sujet-là, et pour une raison là encore qui peut ne pas être totalement ouverte sur la société ou sociétale, tout simplement parce que toutes les études montrent qu'une entreprise qui intègre la diversité au sens large et en premier lieu la parité sont des entreprises qui sont plus performantes. Il y a des observatoires, l'observatoire Schema, les études McKinsey. Oui. Alors partant de là, quota, ça veut dire quoi? Quota, ça veut dire définir.
C'est comme pour la loi Copé-Zimmermann, hein, pour les conseils d'administration, 40%, voilà.
Alors quota, non mais surtout, c'est réexpliquer, quota c'est définir des objectifs chiffrés, et évidemment c'est indispensable parce qu'on n'améliore pas quelque chose si on ne peut pas le mesurer. Donc c'est définir des objectifs chiffrés. Après la deuxième chose, c'est définir des délais pour les atteindre, et la troisième chose, et je note que dans les différentes tribunes que j'ai lues récemment, on intègre le fait qu'il y a effectivement des secteurs d'activité dont la démographie est déséquilibrée, démographie au sens nombre de jeunes filles et de jeunes femmes qui rentrent dans ces filières, donc il faut adapter tout ça. Ce qu'a pris comme position de façon proactive le MEDEF, c'est de contraindre les entreprises devant leur Assemblée Générale, dans le cadre du rapport annuel, de présenter des objectifs chiffrés pour qu'ils soient mesurés et contrôlés. Deuxième élément est d'expliquer pourquoi...
Si l'objectif chiffré, c'est 2%, c'est un objectif chiffré. Non mais vous voyez, je veux dire, c'est est-ce que vous dites... Il faut que ça soit 40%. Est-ce qu'il faut que ça soit 30%? Est-ce que voilà.
Écoutez, je prends le domaine du secteur numérique où beaucoup de gens font un travail remarquable, notamment Sophie Vigier, qui est directrice de l'école 42. On était à 10-11% il y a quelques années. On monte à 22-23% de femmes qui suivent des cursus dans ce domaine-là, ouvert d'ailleurs à pas simplement des jeunes femmes mais des femmes en reconversion. Donc on va très bien voir la mise en application de ces définitions d'objectifs chiffrés en adéquation avec ce qui était exprimé, la démographie de ces secteurs-là. Donc il faut contraindre, et dans le code AFEP-MEDEF, il y a l'obligation pour les entreprises de revenir chaque année auprès de l'Assemblée Générale pour exprimer pour quelles raisons elles ont pris cet objectif et est-ce qu'ils y sont.
Obligation d'objectif chiffré, mais il n'y a pas, en conclusion, l'objectif chiffré, il n'est pas le même pour tout le monde.
Ce sera à chaque entreprise de se définir, mais je reprends très bien votre exemple. Si dans un secteur, globalement, on constate que c'est 20-25% ou 30% et qu'il y a des entreprises qui sont à 5%, je reviens sur le risque réputationnel, il y aura un vrai sujet. Alors, il y a un autre sujet, pardon.
Il nous reste 0 secondes.
Très rapide, c'est que, tiens, c'est étonnant, on parle des entreprises, on commence à parler des organisations professionnelles et des entreprises publiques, mais l'administration, il y a eu un rapport de l'Observatoire de l'égalité qui montre assez clairement qu'au niveau directeur et directeur adjoint de cabinet, c'est pas très féminisé. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre l'ensemble des acteurs.
Donc,
combat global.
Vous êtes en face de moi, c'est pour ça que je pose la question à un chef d'entreprise. En l'occurrence, name and shame, ça fait bouger les choses, le name and shame.
Bien sûr, mais on revient on revient sur la réputation. Et ce qui montre d'ailleurs qu'il y a un nouvel art de légiférer, parce que précisément aujourd'hui, le pouvoir médiatique, le pouvoir de l'expression des citoyens et des consommateurs est au moins aussi important que le pouvoir de la loi.
Merci beaucoup, Patrick Bertrand, d'avoir été avec nous.
Merci.
Donc, président désormais du comité sur la gouvernance au MEDEF. Dans un instant, c'est Néobanque Jérémy Rossellini qui vient nous voir, directeur général de N26 pour la France. Allez voir, c'est quand même Néobanque, c'est quand même un sacré secteur et c'est vraiment en train de disrupter complètement le secteur financier. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est le patron de la Néobanque N26 pour la France, Jérémy Rosselli. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Plein de questions à vous poser. Vous venez de fêter vos 5 ans. Vous venez de franchir le cap des 5 millions, je crois, de clients. 1 million en France. Une question, est-ce que depuis le coronavirus, vous voyez une explosion peut-être du nombre de personnes, de clients? Les gens se disant, à la limite, payer avec une carte, c'est mieux que de donner à attendre un billet.
Alors, on ne voit pas encore d'impact réel. C'est quelque chose que nous regardons, notamment les paiements en ligne ou les paiements sans contact. Après, c'est quelque chose pour lequel nous nous préparons en interne. Parce que nous sommes une banque, nous avons besoin de mettre en place ce qu'on appelle des plans de continuité. Donc aujourd'hui, chez N26, on a la chance, par exemple, à Berlin, d'avoir 3 bâtiments. Donc en fait, on a réparti, par exemple, notre
siège. Vous êtes d'origine allemande, vous êtes allemand, oui.
Nous sommes allemands, notre siège est en Allemagne. Et donc nous avons réparti, par exemple, notre service client dans les 3 différents bureaux. Et nous avons même cloisonné une partie du bureau pour être sûr, justement, de pouvoir continuer continuer à opérer. Ensuite, nos équipes peuvent travailler en télétravail. Donc ça, c'est leur propre choix. S'ils sentent qu'ils n'ont pas envie de venir au bureau, c'est quelque chose qui est possible. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts.
Mais d'un point de vue des clients, pour l'instant, vous ne voyez pas un afflux de clients, justement, qui se disent c'est quand même beaucoup plus sûr.
On voit pas encore
et
de
différence. Qui a pu se monter en puissance des achats en ligne. Donc non.
On voit pas encore de différence, mais c'est quelque chose que nous regardons. Et dès qu'on aura un petit peu de signes, on sera capable de communiquer là-dessus.
Vous y attendez, en tous les cas. N26, alors là, c'est un grand débat au sein de la rédaction. N26, parce que 26, c'est le nombre, donc créé il y a 5 ans, le nombre de petits carrés dans un Rubik's Cube. Et je crois un peu le leitmotiv chez vous, c'est de dire, la Rubik's Cube, ça paraît très compliqué. Une fois qu'on a compris, finalement, c'est tout simple. C'est comme les services et les frais bancaires. Il y a vraiment 26 petits cubes.
Il y a vraiment 26 cubes dans la rédaction.
Dans la rédaction, ils étaient tous là, Emmanuel Le Chip, etc., en train de dire non, il y en a beaucoup plus. Et finalement, ils ont réfléchi, il y en a 26.
Non, ça marche, il y a vraiment 26 cubes et ça devient très vite addictif. Hein, je ne sais pas si vous êtes capable de le résoudre, mais à partir du moment où vous êtes capable de le résoudre, ça devient d'abord simple et vraiment addictif. Et en fait, c'est vraiment comme la finance. Une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, ça devient beaucoup plus facile pour vous. En fait.
Néobanque, est-ce que ça. Est-ce que vous trouvez, on dit beaucoup que c'est vous qui allez disrupter quand même les gros mammouths, hein, genre BNP, Société Générale, notamment les agences. Est-ce que finalement vous prenez autant de place que ça, les néobanques? Est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, qu'est-ce que vous pesez?
Alors aujourd'hui, quand on regarde à peu près en France, les néobanques, ça représente à peu près 10% du marché. Mmh. Simplement, quand on regarde les nouvelles ouvertures de comptes, c'est déjà une ouverture de compte sur 3. Après, dans le cas, par exemple, d'N26, nous avons déjà 1,4 million de clients en France. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel, seulement 3 ans après notre ouverture. Donc, on voit vraiment qu'on commence à avoir une place de choix. Après, ce qu'il faut voir, c'est dans la durée. N26, en France, il y a à peu près 4 Français sur 5 qui n'ont jamais entendu parler d'N26. Donc, les perspectives de croissance, elles sont exceptionnelles. Et nous voyons que ça accélère tous les jours en termes de croissance.
Et qu'est-ce que vous apportez de plus que, je ne sais pas, une banque en ligne? Ce que fait le Crédit Agricole en ligne, de ce que fait le Boursorama éventuellement, ou ce que fait la Société Générale en direct aussi, toutes les banques en ligne qui existent?
Alors, en général, un client vient chez N26 pour 3 raisons principales. D'abord, la simplicité. Chez N26, vous pouvez faire tout extrêmement simplement sur votre téléphone mobile. Hein, ça veut dire toutes les transactions, les paiements, les prélèvements. Vous pouvez même faire un crédit à la consommation entièrement de façon digitale. Vous pouvez même ouvrir un compte depuis chez vous en moins de 8 minutes, même un dimanche après-midi. Donc, ça marche extrêmement bien en termes de simplicité. Mmh. Ensuite, il y a le temps réel.
Donc, acceptez tout le monde?
Nous acceptons tout le monde qui a plus de 18 ans.
D'accord.
Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle le temps réel. Donc quand vous allez faire une transaction avec N26, vous allez avoir une notification en temps réel. Donc il y a beaucoup de cas, par exemple, lorsque vous retirez de l'argent au distributeur, vous savez exactement combien il vous reste sur votre compte en banque. Ou quand vous achetez un billet d'avion en ligne, vous savez que votre billet d'avion, il a bien été acheté. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison qui est la plus importante, c'est avec N26, en fait, vous allez pouvoir faire des économies. N26 est extrêmement compétitif. En moyenne, les Français payent environ 200 euros de frais bancaires par an. Mm-hmm. Là où N26, vous pouvez avoir un compte gratuit avec une carte de paiement internationale de façon entièrement gratuite. Donc vous avez à la fois la simplicité, le temps réel, mais aussi vous allez faire des économies. C'est les 3 raisons principales pour lesquelles les clients rejoignent N26. Et c'est important de comprendre que la majorité des clients qui rejoignent N26, c'est grâce au bouche à oreille. Donc c'est pas du tout par rapport à des campagnes de publicité, c'est réellement parce que des gens leur ont parlé et c'est quelque chose qui marche. Dans une banque traditionnelle par exemple, en fait vous allez pouvoir avoir peut-être un petit peu de digital, un petit peu de compétitivité, mais vous n'aurez jamais l'ensemble de ces éléments.
Et en même temps, on voit bien, vous avez une rentabilité qui dépend du nombre de clients, parce que évidemment ce que vous rapporte par client, le pub, ça s'appelle, c'est ça, ça représente peu dans une néobanque.
Alors, pas nécessairement. Pour vous donner un exemple, N26 est rentable en France. Ouais. N26 est même plus généralement rentable en moyenne sur ses clients en moyenne. Après, ce qu'il faut comprendre au niveau global, c'est qu'N26 investit massivement, notamment pour défricher des nouveaux marchés. Par exemple, aux États-Unis, nous avons plus de 80 personnes. Aussi, nous investissons massivement dans l'innovation. Nous avons ouvert des bureaux à Barcelone et à Vienne.
Oui, mais par exemple, on dit ça a marqué, mais finalement, quand on regarde de plus près, enfin, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, vous avez quitté la Grande-Bretagne, c'était au moment du Brexit. Mais la vraie raison, en fait, c'est que vous n'avez pas suffisamment de clients, non?
Pas du tout.
Non. En fait, je sais pas, c'est ce qu'on a dit. On a dit, voilà, et en fait, N26, il y a un petit problème de rentabilité en Grande-Bretagne.
Absolument, absolument pas.
C'est vraiment le Brexit qui vous a fait sortir.
En fait, le Brexit est une réalité. Mais concrètement, si nous avions voulu rester en Grande-Bretagne, nous aurions pu. Mais la réalité, pourquoi nous ne sommes pas restés en Grande-Bretagne, c'est que nous aurions dû changer nos opérations, notre produit en profondeur, nous aurions dû allouer énormément de ressources. Et la réalité, c'est que quand vous avez une entreprise privée, que vous soyez une start-up ou plus grande, en fait, vous avez une obligation de regarder où est-ce que vous allouez vos ressources. Aujourd'hui, chez N26, on s'est dit, on préfère allouer nos ressources pour notre croissance à l'international et développer nos
produits. Oui, mais là aussi, vous allez... à la limite, c'est vrai que c'est devenu la Grande-Bretagne, c'est devenu un peu comme les États-Unis, c'est une croissance à l'international. Donc, si vous mettez de l'argent pour votre croissance internationale, vous aurez pu en mettre en Grande-Bretagne.
Oui, mais c'est là où, justement, on regarde les différents projets et quand on regarde, par exemple, les États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est 400 millions de clients, c'est le marché le plus rentable en termes de banque. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons une équipe là-bas. Nous avons déjà plus de 250 000 clients et nous préférons investir dans des marchés comme les États-Unis ou comme le Brésil que nous allons lancer plutôt que dans la Grande-Bretagne.
Quel est le client moyen de N26?
Alors, à votre avis, à quoi ressemble le client?
Mais je ne sais pas, justement, c'est pour ça que je vous pose la question.
Alors, on a à peu près 40% de nos clients qui sont en fait des jeunes actifs, donc entre 25 et 35 ans.
Ouais.
Et ce qui surprend beaucoup les gens, c'est qu'on a plus de 40% de nos clients qui ont plus de 35 ans. Mmh. Donc aujourd'hui, vraiment, ça s'adresse à l'ensemble des Français.
Et en termes de revenus?
C'est à peu près similaire, quelles que soient les tranches d'âge, en fait. Ce qu'on voit plutôt, c'est qu'au départ, on a des clients qui essayent N26, donc qui s'en servent avec quelques centaines d'euros par mois. Et très rapidement, ça devient leur compte du quotidien. Et c'est pour ça qu'ils passent progressivement à des comptes premium. Mais c'est complètement indépendant, finalement, des tranches d'âge ou de la démographie.
Ouais, non, mais c'est plutôt le revenu, en fait, qui est important. C'est de savoir si c'est plutôt, genre, compte nickel, c'est-à-dire c'est plutôt des clients qui sont en dessous d'un certain niveau de vie. Quoi.
Non, pas du tout. Là, vraiment, on voit l'ensemble des typologies et ça se voit dans les typologies de dépenses, d'ailleurs, dans les revenus. On voit vraiment, c'est assez représentatif, finalement, de la France.
La toute dernière question, qui était du reste ma première, mais je réinsiste, à Jérémy Rossilli. Est-ce que vous pensez que vous allez disrupter le modèle des grandes banques? C'est-à-dire, est-ce que vous allez provoquer la fermeture d'agences bancaires en France? Voilà.
Alors, il y a deux questions.
Répondez à la dernière, si vous voulez.
Alors, la dernière, en fait, ça me fait penser à un débat, finalement, qu'il y avait dans les années 70, quand les distributeurs automatiques sont arrivés.
Oui.
Il y avait le même débat où on disait les agences bancaires vont fermer parce que les distributeurs vont remplacer les agences.
La réponse, c'est les DAB qui ferment. Donc, voilà.
Mais à l'époque, c'était la même chose. Les banques ont réussi à se réinventer, à inventer des nouveaux services, et c'est maintenant à elles de le faire. Après, en France, est-ce qu'il y a beaucoup trop d'agences bancaires par rapport au nombre d'habitants? On voit qu'en France, il y en a plus qu'en Allemagne.
La réponse est oui, voilà, comme ça. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec vous. N26, donc, qui vient de fêter ses 5 ans et qui vient de lever quand même 300, plus 170, près de 500 millions, en fait,
oui. Hein,
rien qu'en 2019. Il y en a d'autres à venir?
Il y en aura probablement d'autres à venir, mais pour le moment, déjà, on a de quoi travailler. Et
on digère, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérémy Rossellini, donc le patron de N26 pour la France. Dans un instant, on parlera avec Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP. On parlait de la gestion des communes, des maires. Vous savez qu'il y a des élections municipales, on l'oublie un peu, mais elle sera avec nous en tous les cas pour nous dire si c'est mieux géré qu'avant.
BFM Business, l'heure H. L'invité.
Notre invité c'est Agnès Verdier-Molinier. Agnès, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être la directrice de la fondation de l'IFRAP. Vous avez, avec vos équipes, pendant de longs mois, mouliné tous les chiffres des 80 plus grosses communes de France et puis des 300 villes moyennes, on va dire.
Voilà. 380 en tout.
380 en tout. Et puis avec les critères d'endettement, les critères d'investissement, les critères du nombre d'augmentation de salariés ou pas. Quand on voit les débats sur les municipales, notamment à Paris, on voit que c'est des questions intéressantes. Du reste, vous n'avez pas fait Paris, je crois.
Ah, si, si.
Paris
est dedans.
Ah,
oui,
bah, Paris est noyé dans... On va y revenir. J'ai quand même deux, trois questions d'actualité, même si ça, c'est l'actualité, parce qu'il y a des élections municipales. Agnès, est-ce que vous vous dites, lorsqu'on parle d'un plan de relance au niveau européen, est-ce que vous dites que ça peut servir à quelque chose ou pas?
Oh ben, il est un peu trop tôt pour le dire, surtout
oui,
ça dépend aussi du montant et puis ça dépend dans quel état on est vraiment économiquement. Après, le sujet, c'est d'être adaptable et d'arriver à finalement assouplir les règles en fonction de la situation. Néanmoins, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que les pays du nord de l'Europe ont toujours fait. C'est-à-dire qu'en réalité, ils se préparent pour une future crise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un principe d'équilibre des comptes qui est très important, ce principe d'équilibre des comptes, ce qui permet, quand on arrive sur une grosse crise, potentiellement ce qu'on est en train de vivre, hein, alors après, on ne sait pas combien de temps ça va durer, etc., eh bien, d'être prêt. Donc, le principe, par exemple, du frein à l'endettement suisse ou suédois, bon, ce n'est pas exactement le même principe en Allemagne, mais en gros, c'est de dire, quand on est face à une crise, on peut être en déficit. Quand on est dans une période de croissance, on a des excédents et on fait des réserves et on désendette. Mais attendez, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc là, si on est confronté à une crise majeure, ces pays-là du nord de l'Europe, ils sont super prêts. Mm-hmm. Sauf que nous, on a plus de 50 milliards de déficit structurel de la France.
Ouais. On a 50 milliards excédentaires en Allemagne.
Ouais. On n'a jamais respecté ce genre de règles de bonne gestion. On a refilé un peu le sujet.
D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, parler... Donc, un plan de relance, on voit bien, du reste, c'est ce que me disait ce matin la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, en disant, pour l'instant, c'est pas utile. Il y a un plan de soutien au niveau national. Mais on voit que ça bouge du côté des Allemands qui se disent s'il faut remettre un petit peu d'argent dans le circuit, pourquoi pas. Et puis surtout, c'est un peu la fin du dogme du zéro déficit que la France n'a jamais respecté. Vous avez raison de le souligner.
Non mais le zéro déficit, c'est valable quand on est en croissance. Quand on est face à potentiellement une période de récession, comme ça peut arriver face à ce qui se passe avec ce coronavirus, effectivement, l'idée c'est... C'est pas de conserver l'idée de l'équilibre budgétaire à tout prix. Parce que quand il y a une crise qui arrive, c'est pour ça qu'on gère bien avant, c'est pour ça qu'on se prépare avant. La bonne gestion, c'est quoi? C'est être prêt pour la prochaine crise. Ouais. Et des crises, il y en aura toujours. Donc le problème de la France, c'est qu'ils sont en train de demander à cor et à cri un plan de relance au niveau européen. Pourquoi? Parce que nous, il y a zéro... Oui. Réserve dans les caisses. Oui. Donc c'est ça la difficulté, c'est que ça fait des années nous qu'on explique à la Fondation IFRAP qu'il va falloir à un moment qu'on soit des meilleurs gestionnaires, non pas pour engranger des excédents parce que ça fait plaisir, mais tout simplement pour être prêt pour la prochaine crise. Et là, on voit très bien la différence entre des pays qui ont fait le travail, qui ont désendetté, qui ont réduit les déficits, qui ont réduit la part de dette. La part de dette en Allemagne, elle est autour de 60% du PIB. Nous, en France, on a tutoyé les 100% du PIB en termes de dette pendant l'année 2019. Et donc, on n'a pas, finalement, les réserves nécessaires. On est le pays qui emprunte le plus dans la zone euro. Voilà.
Et maintenant, je remonte la chaîne. Et in fine, l'impact que vous voyez sur cette crise du coronavirus, est-ce qu'on le voit déjà? Parce qu'il y a un peu les deux attitudes, et ceux qui restent un peu dans le flou, comme Bruno Le Maire, à qui je posais la question, mais qui dit, bon, ça, c'est sûr que ça va être plus important que moins 0,1. Et puis, vous avez l'OCDE qui a quand même fixé un cadre en disant, ça sera entre 0,5 et 1%. Est-ce que vous, à l'IFRAP, est-ce que vous avez mesuré peut-être le déficit de croissance?
Il est vraiment trop tôt pour le dire. On voit que, de toute façon, la perspective de croissance qui était celle du gouvernement pendant le vote au Parlement du budget 2020, c'est 1,3%. On n'y sera pas, c'est sûr. Hein. Enfin, vraiment, il faut, faut... Mais en réalité, on n'aurait pas été à 1,3% même sans la crise du coronavirus. Ouais. Donc, il faut aussi faire la part des choses entre ce qui est lié au fait qu'on a surévalué la croissance tout en le sachant assez bien, finalement.
On a surévalué. Alors là, il y a le coronavirus. À chaque fois, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. À chaque fois que Bercy fait une prévision de croissance, notamment pour son budget, tout le monde dit hurle-loup en disant il n'y a aucune chance. In fine, on finit par l'avoir, quoi.
Pas forcément. En tout cas, les 1,3 pour 2020, nous, on a tout de suite dit, attention, c'est trop élevé par rapport, finalement, à ce qu'on peut attendre pour l'année 2020. Alors, cette année 2020, en gros, tout le monde pense maintenant qu'on sera plutôt autour de 1, et certains pensent qu'on sera même en dessous. Et tout dépend de la durée de la crise. Voilà, tout dépend aussi de son ampleur. Est-ce qu'on va être obligé de passer à finalement une sorte de quarantaine, à être confiné, etc. Ou est-ce qu'on va pouvoir y échapper sur l'ensemble du territoire? Parce qu'il y a certains territoires en France qui sont déjà touchés.
Agnès Verdier-Molinier, est-ce que vous avez déjà vu ou étudié une crise pareille? C'est-à-dire où vraiment tout s'arrête? Voilà, tout. Il y a Philippe Bloch avec qui je discutais là, qui me disait, moi, on a 300 commandes qui sont arrêtées en deux jours. Boum. Oui, on le voit bien, tout le monde a ces témoignages-là.
C'est impressionnant, c'est impressionnant. On se souvient de la crise de 2008, qui était quand même une crise aussi, quand on était au cœur de la crise, très, très, très impressionnante, avec aussi des marchés qui étaient très atteints et finalement beaucoup, beaucoup de difficultés aussi pour l'ensemble des entreprises. Après, c'est vrai que ça va être certainement compliqué. Il faut souhaiter que ça dure le moins longtemps possible, que ça fasse réfléchir aussi par rapport à notre capacité.
Mais est-ce qu'on a déjà connu, un mouvement si court, un arrêt brutal dans l'histoire de l'économie? Je ne sais pas, c'est une question, peut-être que vous n'avez pas la réponse.
Franchement, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire et il faut attendre un peu. Regardez en Chine, finalement, la région qui était la plus touchée, la région de Wuhan, elle est en train de redémarrer. Ils sont en train de recommencer à travailler et à avoir, pas encore totalement, mais une vie qui va redevenir petit à petit normale, parce que finalement le pic de l'épidémie est derrière eux. Donc il faut se dire que en gros, nous on va avoir aussi potentiellement un peu un agenda qui va être dicté dans les prochains mois par cette crise sanitaire. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce sera absolument aussi cataclysmique que ce que certains disent. Donc il faut se préparer au pire, mais il faut espérer quand même que ce ne sera pas...
Le pire n'est jamais sûr, quand même.
Voilà, absolument, et ne pas paniquer non plus, parce que plus on panique, plus on se met dans une situation où tout le monde commence à dire, on va pas se déplacer, on va pas commander, on va pas consommer, etc., etc. Eh bien, c'est finalement derrière un cercle vicieux.
On parle des... vous êtes quand même venu.
Absolument, c'est pour ça que je suis venue.
Parce que c'est une grosse, grosse enquête que vous avez conduite avec vos équipes à l'IFRAP sur l'endettement, l'investissement, la gestion, sur le nombre de fonctionnaires par habitant. Je crois que vous avez combien de critères au total?
Alors, on a quatre critères qui sont les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement avec une moyenne sur la mandature, c'est-à-dire 2014-2018, la dette par habitant et les impôts. Alors voilà, c'est absolument passionnant. Vous disiez que ça nous a pris des mois, ça nous a pris plutôt, ça fait un an et demi qu'on est sur ce dossier.
Donc 80 communes, 300 villes.
Voilà, les 80 premières villes de France dans un premier palmarès. Et ensuite, comme ça s'est bien passé, parce que c'est assez compliqué, on additionne communes plus intercommunalité plus budget annexe. Ouais. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas un peu des choux et des carottes quand même?
Pas du tout.
Non.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui...
C'est compliqué entre les intercos, les métropoles...
Oui, mais justement, c'est la spécificité française. C'est-à-dire que quand on parle de ce qu'on appelle le bloc communal, en fait, il n'y a pas uniquement les communes. Quelqu'un qui voudrait dire, par exemple, je compare la gestion de Toulouse avec la gestion de Bordeaux, avec la gestion de Strasbourg, mais qui ne prendrait pas en compte le phénomène des métropoles, passe complètement à côté du sujet. Pourquoi? Parce que, par exemple, une partie de l'investissement, par exemple sur les tramways, etc., est souvent portée par l'intercommunalité. Donc, quand vous comparez ville à ville, vous avez parfois plus de 50% des missions, entre guillemets, du niveau communal, qui sont portées par l'intercommunalité. Et ceux qui dirigent les villes siègent aussi au sein des intercommunalités.
C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui sont un peu les double casquettes. Donc
Mais justement, c'est ça qui
comment
est intéressant.
Faites-vous mais comment faites-vous découper les casquettes?
Eh bien, c'est très simple. C'est qu'on regarde la dépense par habitant, par exemple, en termes d'investissement, pour prendre quelque chose d'assez simple. On regarde l'investissement sur la période, au niveau de la commune, au niveau de l'intercommunalité, au niveau des budgets annexes, et puis on regarde en moyenne quel est l'investissement annuel. Et ça nous permet, par exemple, de dire qu'à Bordeaux, on a plus de 1100 euros d'investissement par habitant, et que dans d'autres villes, comme Paris, par exemple, il n'y a que 680 euros d'investissement par habitant en moyenne. Donc, ce que personne n'avait jamais fait, c'est-à-dire mettre toutes choses égales par ailleurs, les villes une à une à côté, et dire voilà l'investissement qui a été réalisé pour votre ville. Et puis finalement, quelle est la dette en face? Parce que par exemple, Paris, c'est compliqué parce qu'il y a aussi la part département dans
bien
la
sûr.
Ville.
Oui, oui.
Souvent, la maire de Paris arrive sur les plateaux.
C'est une grande question d'aujourd'hui, savoir si Paris est endetté ou pas.
C'est une question à laquelle répond notre étude.
Et vous répondez quoi?
On répond que la dette qui est comparable à celle des autres villes, c'est 3055 euros. Et d'ailleurs, au moment où on a publié l'étude, la mairie de Paris a dit, c'est la réalité. Voilà. Et par exemple, quand vous prenez sur la ville de Bordeaux, vous allez avoir 1900 euros par habitant. Et puis, à Villeurbanne, vous aurez 1600 euros par habitant. Alors, Voilà, ça permet de remettre les curseurs un peu à leur place.
Alors justement,
mais vous allez avoir des villes plus endettées que Paris.
Bah, justement, pour ceux qui regardent la télévision, on voit, on a vu, si on peut le remettre, hein, du reste, le petit tableau sur les villes la plus forte dette par habitant. Levallois-Perret, tiens, 5452. Oui, Bagnolet, 3960. Alors là, on est sur les villes, on n'est pas sur les métropoles, hein, bien sûr. Hein.
Alors, oui, donc Levallois, bon, ça c'est intéressant Aubagne. Aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de Levallois ces derniers temps.
On ne fait pas de politique, là, on fait de l'économie.
Non, mais 5000 euros par habitant, c'est très élevé.
Ouais. Hein.
Bah, figurez-vous que quand vous regardez sur l'ensemble des villes de France, hein, que vous allez encore plus loin dans les critères, c'est-à-dire au-delà des 20 000 habitants, c'est-à-dire en dessous de 20 000 habitants, vous avez des villes qui sont encore plus endettées que ça. Bon, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais Levallois est à plus de 5 000 euros par habitant. Nice, par exemple, est à plus de 4 000 euros par habitant. Effectivement, vous avez des niveaux de dette très importants. Et parfois même, la dette n'est pas apparente pour le citoyen. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dans la ville, elle est dans le budget annexe de la ville. Et si vous n'allez pas chercher dans les comptes des budgets annexes, ben vous n'aurez jamais le véritable montant de dette qui pèse sur les citoyens. Il faut savoir que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Ouais.
Agnès, est-ce que vous avez, s'il fallait faire un commentaire général sur la gestion des villes, justement, qu'est-ce qui vous a frappé ?
Ben, ce qui m'a le plus frappé, et je crois que notre équipe aussi à la Fondation IFRAP était vraiment particulièrement impressionnée par ça, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que tout est fait pour que on n'arrive pas à comparer la gestion d'une ville à l'autre.
Voilà. Ah oui, ça c'est vrai, parce que quand vous êtes grand, on va le Grand Prix des villes, c'est très compliqué.
Voilà. On a l'impression que finalement, ça arrange tout le monde d'avoir toutes ces couches du millefeuille. Et aussi, que par rapport à une entreprise qui a quand même des obligations de présentation dans ses comptes, etc., enfin, un cadrage très, très important, finalement, vous pouvez avoir plein de choses qui passent en budget annexe que les citoyens ne verront pas du tout. Vous vous direz, oh ben non, nous on n'a que 1 400 euros de dette par habitant, mais en fait, il y en a 3 000. Mais ça apparaîtra pas.
Donc, sur les grandes villes, les mieux gérées, parce que comme on le voit à l'écran, il y a Villeurbanne, Angers, Toulouse, Toulon, Bordeaux.
Oui, qui arrivent très très bien positionnés. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à avoir des niveaux de dette faibles, des niveaux d'investissement relativement élevés, tout en ayant des impôts faibles et tout en ayant des dépenses de fonctionnement assez faibles. Eh bien, à la fin, c'est le ticket gagnant. C'est-à-dire que vous investissez pour les services publics de votre ville, mais vous avez des dépenses de fonctionnement modérées et vous avez comme ça de l'impôt modéré. Et dans les 300 villes qu'on vient de sortir, on a aussi plein de villes qui arrivent à avoir des très bonnes notes et à être premières, hein, comme Sartrouville, dans les villes qui sont entre 50 et 64 000 habitants, comme Saint-Germain-en-Laye, qui est très bien placé, comme Neuilly-sur-Seine aussi, qui est très bien placé.
Oui, il y a Neuilly qui est très bien placé. Ouais.
Mais pourquoi ? Parce que certains
c'est
vont
plus
dire...
facile, vous direz. Bah oui.
Certains vont dire que c'est plus facile parce que ce sont des villes plus riches. Mais pas du tout. Parce que quand vous regardez le niveau d'impôts locaux par habitant, on est à 664 euros à Neuilly par rapport à une moyenne à 969. Et vous êtes à Saint-Germain-en-Laye à 612.
Oui, mais là aussi, on est plutôt dans des communes riches.
Mais le sujet, c'est pas ça. C'est quel est l'impôt qui pèse sur chaque habitant de la ville. Parce que vous avez des communes qui sont beaucoup moins riches et vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez vous rendre compte que finalement, ces communes moins riches, comme par exemple Bagnolet, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, elle est très endettée. Elle est endettée à plus de 4 000 euros par habitant. Là, on est dans le 93. Les impôts par habitant, c'est 1 282 euros. Vous voyez, vous êtes dans la même strate que Neuilly-sur-Marne, qui est aussi dans le 93, et qui arrive, pour cette ville-là, à avoir que 690 euros d'impôts par habitant.
Est-ce que vous pouvez faire, au-delà de tous ces chiffres qui sont très passionnants, qu'on peut aller consulter sur votre...
Absolument.
Sur votre, le site de
et
votre
on le
fondation.
Fait en partenariat aussi avec Le Point.
Absolument. Est-ce que vous avez une typologie des maires qui sont peut-être les plus performants ou pas ? Est-ce que vous êtes penché un peu là-dessus ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un profil ? Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais fait le Grand Prix des Villes, c'est qu'en l'occurrence, vous aviez des vrais professionnels. C'est beaucoup, de moins en moins des politiques, en fait.
Alors, ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus vous descendez dans le niveau de strate, c'est-à-dire plus vous allez vers des petites villes, moins il y a des étiquettes vraiment apparentes. C'est-à-dire que finalement, vous regardez la ville et puis vous dites, mais finalement, ce maire, il est quoi ? Il est apparenté PS, il est divers droite, il est apparenté LR, il est UDI. C'est pas toujours très simple de trouver l'étiquette du maire, tout simplement parce que c'est pas le sujet numéro un. Une ville comme Sartrouville, qui arrive première là, dans les villes que j'ai évoquées tout à l'heure, elle est dirigée, bon, par un haut fonctionnaire de Bercy, en l'occurrence, qui connaît assez bien le sujet de la gestion. Il a depuis 1995, il arrive à avoir des résultats très importants. Mais Villeurbanne, par exemple, qui est aussi dirigé par un maire depuis de longues années, hein, qui arrive avec un très très bon résultat, il a une recette toute simple, hein, il l'a dit. Lui, il essaie de faire payer l'utilisateur du service public et pas toujours le contribuable. Donc, ceux qui vont utiliser, ben, ils vont payer un peu plus que ceux, finalement, qui ne font que habiter la ville.
Il y a une chose qui vous a frappé aussi, c'est que quand même, ils connaissent extrêmement bien leurs chiffres.
Ah oui.
C'est ce que vous m'avez dit, et ça ne m'étonne pas du reste, mais ça vous a frappé.
Oui, pourquoi ? Parce que, en fait, ceux qui vont être mal classés le savent. Hein, et d'ailleurs ils sont tout de suite assez sur la défensive, et puis en fait ils critiquent pas les chiffres parce que ce sont les chiffres officiels, impots.gouv.fr, data.gouv, c'est des chiffres de la Direction Générale des Collectivités Locales, on peut les consulter en ligne, voilà, il y a pas de sujet
on
là-dessus.
On est dans la transparence, hein, là, oui.
Mais en revanche ils disent ah bah oui, mais il faudrait quand même pas ajouter l'interco, mais alors quand ils vont faire campagne ensuite ils vont dire vous voyez le très bel investissement, mais l'investissement n'a pas été fait par la commune mais par l'intercommunalité. En revanche, ceux qui gèrent bien, connaissent très très bien aussi. J'ai eu énormément d'appels de maires, d'équipes municipales qui disaient « Ah, mais nous, on aimerait bien aussi faire partie du prochain palmarès. Pourquoi ?» Parce qu'ils disaient « Mais nous, on sait très bien qu'on serait très bien placés. » Effectivement, après, quand on regardait leurs chiffres, alors on n'a pas pu le faire pour toutes les villes, hein, parce que parfois, ce sont des villes de 1500 habitants, ben, on se rendait compte qu'ils avaient des très bons chiffres de gestion. Donc, en réalité, la méthodologie qu'on a appliquée, elle parle aux élus locaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de transferts entre villes, métropoles, intercommunalités. Et c'est vrai que c'est compliqué à faire parce qu'il y a aussi parfois des doubles comptes. Parfois, sur des villes comme Strasbourg, les personnels sont employés par l'intercommunalité, mais mis à disposition de la ville. Donc, il faut bien connaître les sujets. Mais je dois vous dire, Edwige, qu'on a tellement travaillé dessus. On a envoyé à tous les directeurs généraux des services les chiffres avant publication. Eh bien, ça nous a permis d'avoir vraiment une qualité d'information.
Pensez-vous que ça va avoir la bonne gestion d'une ville va avoir un impact sur le vote ou pas ?
Alors, c'est tout.
On cite pas de nom, hein.
Non, mais c'est tout le sujet, parce que par exemple, on voit le débat sur Paris en ce moment, qui quand même fait un peu la une France ces derniers jours. On parle très très peu de dettes, de finances publiques, d'impôts. C'est très étonnant. Alors, c'est vrai que la ville de Paris est bien placée en termes d'impôts, hein. Ils ont très très peu augmenté les impôts. Ils sont à 988 euros en moyenne. C'est 1600 dans la strate. Donc, vous voyez, voilà. Mais en revanche, ils ont super augmenté la dette de la ville sur les dernières années. Et d'ailleurs, quand je regarde le tableau de où est-ce qu'on a augmenté le plus la dette dans les 80 premières villes de France, eh bien c'est à Paris que ça a le plus augmenté, avec 1199 euros de plus de dette par habitant entre 2014 et 2018. Il n'y a pas plus dans les 80 premières villes de France en termes d'augmentation. D'accord. Donc on se pose la question de est-ce que ça va être central ou pas. Malheureusement, souvent, ce n'est pas central. Néanmoins, je pense que petit à petit, ça va devenir quand même un sujet de plus en plus important pour nos concitoyens.
En termes d'investissement, est-ce que les villes, est-ce que les communes, est-ce que les intercos, elles investissent suffisamment ? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a certains qui disent qu'il y a trop de ronds-points, il y a trop de travaux, c'est des investissements énormes. Votre sentiment à travers les chiffres, hein, encore une fois ?
Eh bien, tout simplement, c'est une question aussi de qualité d'investissement qui se pose derrière. Et nous, on a donné les chiffres en moyenne, c'est-à-dire, par exemple, une ville comme Versailles, elle va pas investir beaucoup. Elle investit un peu plus de presque 500 euros par habitant. Alors, c'est pas énorme, mais derrière, c'est vrai qu'ils ont une dette tellement faible, aussi autour de 500 euros par habitant. Eh bien, ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix sur les investissements les plus importants. Après, c'est aux citoyens de voir si le niveau de dette et le niveau d'investissement, finalement, est satisfaisant ou pas. Une ville qui va avoir un chiffre de dette beaucoup plus important, comme par exemple Nice, ils ne vont pas investir beaucoup, beaucoup plus. Ils vont être... Et donc, la question, c'est finalement... combien, en endettant la ville, j'arrive à investir pour mes concitoyens et quelle est la qualité de cet investissement en face.
On sent qu'il y a une professionnalisation hein, quand même. Ça se voit même à travers vos chiffres. Merci beaucoup,
oui, absolument.
Agnès Verdier-Molinier.
J'espère que ces sujets de gestion vont être
au cœur des campagnes et voilà,
de la réflexion de nos concitoyens.
Merci beaucoup. En tous les cas, c'est très intéressant. Chacun a envie de regarder un peu sa ville et on peut retrouver ça sur le site
de l'IFRAP.
Voilà, c'est la fin de l'orage, bien sûr. On se retrouve demain. Mon invité, 8h15, c'est Agnès Pannier-Runacher. Voilà, sur les conséquences économiques, bien sûr, de tout ce qui se passe. Et puis ensuite, rendez-vous dans le RH 12h-13h. Bonne journée.